Alors, bien le bonjour à tous. Nous sommes le mercredi 2 novembre de l'année 2022 et on continue aujourd'hui notre temps d'étude sur Hébreux au chapitre 11. On en est déjà rendu à la 21e leçon ou le 21e personnage que nous étudions tout au long de cette série. On arrive à terme et là on rencontre des personnages qui sont un peu moins connus, dont Barak, que nous verrons aujourd'hui. Donc pour ceux qui se joignent à nous, le verset thème est toujours au verset 32 du chapitre 11 d'Hébreux. Par contre, le texte historique ou le texte à travers lequel on va baser notre étude sera dans Juges au chapitre 4. Et donc on aura le temps de lire ces deux passages ce matin. Comme vous voyez, je suis dans un nouveau décor, je suis dans le sanctuaire. Donc j'espère faire la majeure partie de mes publications dorénavant dans le sanctuaire. Hormis demain, c'est déjà cédulé que demain j'enregistrerai depuis la maison. J'ai un traitement qui se fait près de la maison demain matin, donc je n'aurai pas le temps de revenir à l'église d'après moi. Mais on va tenter ça. Donc, Hébreux 11, le verset 32, puis on lira dans Juges 4, et puis peut-être un petit verset en toute fin dans Juges au chapitre 5. Alors, prions pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Alors merci Seigneur pour cette occasion que tu nous donnes de plonger nos regards dans ta parole. Une occasion riche en formation, en instruction et aussi Seigneur en connaissance quant à comment agir, quant à comment vivre notre vie pour qu'elle te soit agréable. Alors nous prions Seigneur ce matin que tu bénisses toute personne qui se joindra à nous, que ce soit en direct, que ce soit plus tard durant la journée. En toute chose, Seigneur, que ta grâce leur soit accordée, que tu ouvres à chacun d'entre nous notre entendement afin de bien saisir ta parole, de la recevoir favorablement et de pouvoir bâtir sur elle. Alors, bénis ma sœur, bénis mon frère et bénis toute personne qui se joindra à nous au cours de cette leçon ou qui nous écouterait plus tard, qu'une même grâce et une même onction nous soient à tous et chacun accordées. Nous t'avons prié dans le précieux, glorieux et merveilleux nom de Jésus. Alors je lis pour vous dans Hébreux au chapitre 11, le verset 32. On a déjà commencé à étudier ce verset-là la semaine dernière. Donc, et que dirais-je encore, car le temps me manquerait, pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, de David, de Samuel et des prophètes. Et aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, on s'arrête sur la thématique de Barak. Et le verset ou le passage qui lui est connexe, Juges au chapitre 4, que je vais lire pour vous, puis qu'on aura le temps de développer tout à l'heure, parce que je comprends qu'il y a beaucoup de noms qui pourraient nous perdre, mais je fais quand même la lecture pour rester intègre au chapitre qui nous sert de réflexion. Alors, Juges, chapitre 4, le verset 1 nous dit: Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, après qu'Éhud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatsor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Roshet-Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam de Kedesh-Nephtali. Et elle lui dit: N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, ton Dieu, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi vers le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi de Kizon, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva, et elle se rendit avec Barak à Kedesh. Barak convoqua Zabulon et Nephtali à Kedesh. 10 000 hommes marchèrent à sa suite, et Déborah partit avec lui. Héber, le Kénien, s'était séparé des Kéniens, des fils de Hobab, beau-père de Moïse. Et il avait dressé sa tente jusqu'aux chênes de Tsanihim, près de Kedesh. On informa Sisera que Barak, fils d'Abinoam, s'était dirigé sur le mont Tabor, et depuis Aroshet, Goïm, Sisera rassembla vers le torrent de Kizon tous les chars, 900 chars de fer, et tout le peuple qui était avec lui. Alors Déborah dit à Barak, lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marchera-t-il pas devant toi? Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute devant Barak, par le tranchant de l'épée, Sisera, tous ses chars et tout le camp. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Arosh-Goïm. Et toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée, sans qu'il en restât un seul. Sisera se réfugia au pied de la tente de Jaël, femme de Héber le Kénien, car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatsor, et la maison de Héber le Kénien. Jaël sortit au devant de Sisera et lui dit, « Entre, mon seigneur, entre chez moi. Ne crains point. » Il entra chez elle, dans la tente, et elle le cacha sous une couverture. Elle lui dit, « Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire, et le couvrit. Il lui dit encore, « Tiens-toi à l'entrée de la tente, et si on l'en vient t'interroger en disant, « Y a-t-il quelqu'un ?» tu répondras non. » Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tempe le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue, et il mourut. Comme Barak poursuivait Sisera, Jaël sortit à sa rencontre et lui dit, « Viens, je te montrerai l'homme que tu cherches. » Il entra chez elle, et voici, Sisera était étendu, le pieu dans la tempe. En ce jour, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël. Et la main des enfants d'Israël s'appesantit de plus en plus sur Jabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils eussent exterminé Jabin, roi de Canaan. Je lis pour vous le verset 12 dans le chapitre 5 de Juges. Réveille-toi, réveille-toi, Déborah. Réveille-toi, réveille-toi, dit un cantique. Lève-toi, Barak, et amène les captifs, fils d'Abinoam. Et on reviendra à ce passage tout à l'heure. Alors, comme je l'ai dit, c'est un personnage qu'on connaît un peu moins. C'est pas à tous les jours qu'on lit sur Barak. On connaît le nom de Déborah, puisque c'est assez commun dans la société contemporaine. Et on sait que c'est une illustre juge en Israël, une femme importante de l'histoire d'Israël. Qu'est-ce qu'était un juge? En fait, à cette époque, qui se situe entre le gouvernement instauré par Moïse, puis ayant à sa tête Josué, entre cette époque et le roi, à l'époque des rois, donc avec le premier roi Saül, puis David et les successeurs, les descendants de David. Il y a une époque un peu trouble. La conquête d'Israël a eu lieu, mais il n'y a pas un leader particulier qui se lève et qui établit une dynastie, qui établit donc une lignée. En fait, ce qui se passe, c'est que régulièrement, Israël va s'éloigner de Dieu après la conquête de Canaan, et à chaque fois, le malheur, la punition, le châtiment de Dieu tombe sur eux. Et on le voit ici, on dit qu'au verset 1 de Juges 4, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhud fut mort, et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatsor. Et on nous dit qu'ils vont régner sur eux pendant 20 ans. Donc c'est un peu le même cycle qui se repart, qui repart systématiquement d'un juge à l'autre. Israël se tourne vers Dieu, puis le délaisse, le châtiment de Dieu tombe et on cherche quelqu'un qui va être un libérateur en Israël. Et à cette époque, c'était donc Déborah. On nous dit que Déborah jugeait dans un endroit particulier et qu'on venait vers elle pour obtenir des jugements. Qu'est-ce qu'étaient des jugements? Les jugements étaient en fait des conseils qui venaient de l'Éternel. Déborah était une femme sage et elle apportait donc à qui voulait bien s'adresser à elle, à qui voulait bien prendre en réflexion ses pensées et ses dires. Et l'appliquer dans sa vie. Donc, on considérait que Déborah était proche de l'Éternel, qu'elle avait une sagesse qui émanait de lui. Et Déborah, à un moment donné, va être l'instrument de Dieu pour la délivrance d'Israël à travers Barak. Alors, on dit tout d'abord à Barak qu'il a été mandaté par Dieu, puis de se diriger jusqu'au mont Tabor, de prendre 1000 hommes avec lui de Nephtali. Donc Nephtali est une tribu, de Zabulon, une deuxième tribu, et d'aller avec ses 10 000 hommes à la guerre contre Jabin et contre Sisera, le chef de l'armée de Jabin. Si on devait dépeindre Barak, on dirait que oui, c'est un homme de guerre, puisqu'il va adéquatement gérer l'armée entre ses mains, mais que c'est en même temps un homme craintif. Et ce n'est pas rare de trouver quelqu'un qui est en leadership qui, malgré tout, est craintif. Est-ce que c'est un manque de foi? Certains pensent que la peur est un manque de foi. Je pense que une foi sans une certaine crainte, une foi sans un certain tremblement, ça peut être aussi de l'insouciance et de l'inconscience. La foi ne fait pas abstraction du danger. La foi n'est pas de la témérité où on s'aventure quelque part sans savoir ce qu'on est en train de faire et sans être conscient du danger qui nous guette. La foi nous permet de passer outre les premières appréhensions et de faire plus confiance à Dieu qu'à la possibilité d'être défait. Et ici, Barak, c'est ce qu'il va faire. Il va faire confiance à Dieu, bien qu'il va demander que Déborah l'accompagne. Certains se méprennent en se disant, lorsque Déborah lui dit, « Bon, mais si je vais avec toi, alors tu ne tireras aucune gloire. La gloire va revenir à une femme parce que Dieu va délivrer donc Israël par l'entremise d'une femme. » Plusieurs pensent que Déborah parle d'elle-même. Déborah ne parle pas du tout d'elle-même, mais elle parle, comme on va le dire plus tard, d'une femme, Jaël, la femme de Héber, un Kénien, donc une femme qui n'est pas juive. Et c'est de elle qu'on parle que cette délivrance va venir. Donc, revenons à notre texte. Barak convoque Zabulon et Nephtali, et les 10 000 hommes marchent à sa suite. On nous parle par la suite de Sisera. Sisera, c'est le chef de l'armée adversaire. Donc Sisera va être attiré vers le torrent de Kizon, avec ses chars et ses troupes. Et on nous dit pour l'époque, et c'était quelque chose de majeur, l'armée de Jabin, dirigée par Sisera, avait 900 chars. 900 chars faits de fer. Habituellement, c'était encore le bois qu'on utilisait, qui était, oui, facile d'usage, qui était facile pour la construction, mais qui était aussi beaucoup plus fragile que le fer, qui pouvait être incendié assez facilement, alors que le fer résistait donc aux flèches qui étaient envoyées, aux flèches enflammées qui pouvaient être envoyées, qui résistaient davantage aux intempéries et qui assuraient une meilleure protection à ses combattants ou à ses soldats. Donc l'armée de Sisera, l'armée de Jabin, n'était pas une petite armée, n'était pas un petit adversaire, mais un gros adversaire. Il y a comme un informateur qui avise Sisera que Barak est allé sur le mont Tabor. Alors celui-ci va décider de se rendre jusqu'au torrent de Kizon, qui est à quelques encablures, on va dire, ou quelques petites distances du mont Tabor. Déborah va annoncer que l'armée ennemie sera livrée entre les mains de Barak. Ça, on le voit dans le verset 7, où on dit « Je le livrerai, donc Kizon et ses chars, le chef de l'armée de Jabin, avec son armée, qui les livrerait entre les mains de Barak. » Dieu place toutefois une embuscade à l'encontre de l'armée de Jabin, et Sisera va être exterminé en une seule journée. C'est-à-dire que toute cette armée, aussi forte qu'elle soit, aussi surprenant que cela puisse paraître auprès des différentes nations qui sont autour, donc oui, le peuple associé à Jabin, mais aussi le peuple d'Israël et les autres nations de Canaan qui restent encore dans le coin, vont être surpris de la défaite cuisante qui va être imposée à Jabin et par ricochet à Sisera. Donc Dieu place une embuscade, puis l'armée va être détruite en une seule journée. Barak va avoir demandé à ce que Déborah l'accompagne, comme on a dit tout à l'heure. Donc Déborah va quitter sa maison pour accompagner Barak dans sa campagne. Elle va aller jusqu'à chez lui, puis jusqu'au mont Tabor. Ici, c'est un bon exemple déjà d'une servante de Dieu qui n'a pas peur de l'effort, qui n'a pas peur de se déplacer, de faire le pas extra que nécessite la crainte ou qu'impose la crainte de Barak. Regardez que dans ce chapitre, lorsqu'on le lit régulièrement, on dit de Barak, mais tu as été un peu heureux, tu aurais pu tirer toute la gloire. Pas une fois, Barak ne semble soucieux de sa réputation. Pas une fois, on attaque Barak par rapport au fait que Dieu t'avait appelé, tu as été craintif et tu t'es appuyé sur quelqu'un d'autre, donc sur une femme, sur Déborah. Pas une fois. C'est nous, avec une lecture très, je dirais, misogyne jusqu'à un certain point, avec une attitude un peu macho, qui lisons ce texte et on y voit un reproche à Barak de ne pas vouloir faire l'effort par lui-même, mais d'être accompagné de quelqu'un. Tout au long de la parole de Dieu, on voit des gens qui accompagnent des serviteurs de Dieu. Un exemple qui me plaît énormément, c'est le serviteur de Gédéon. Gédéon qu'on a étudié la semaine dernière. À un moment donné, juste à la journée avant la victoire contre Madian, Dieu va dire à Gédéon, « Descends dans le camp de Madian. Et là, je te parlerai et je te montrerai que j'ai livré Madian entre les mains d'Israël. » Et Dieu lui dit, « Si tu as peur de descendre tout seul jusqu'au centre du camp de Madian, amène avec toi Pura, ton serviteur. » Et Pura, ce serviteur de Gédéon, c'est le seul endroit dans toute la parole de Dieu où on va parler de lui. Mais on nous dit qu'effectivement, Gédéon va descendre avec Pura jusque dans le camp de Madian, en plein centre. Et là, il va y entendre deux soldats, deux hauts gradés, en train de parler, de discuter. Et l'un raconte à l'autre un rêve qu'il a eu, en voyant un petit gâteau d'orge qui descend de la montagne jusque dans le camp et qui renverse le camp. Et il dit assurément, l'Éternel est avec Gédéon et il va nous battre. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. L'important ici, c'est que Gédéon est descendu dans le camp de Madian, mais on ne lui a jamais reproché d'y avoir été avec Purin, son serviteur. Alors Dieu place à nos côtés des gens qui sont là effectivement aussi à l'occasion pour nous rassurer. Régulièrement, on va voir dans la parole de Dieu, de tels serviteurs. Si je ne m'abuse, c'est Barnabas, le compagnon de Paul, qui s'appelle le consolateur. On l'appelle celui qui console, celui qui fortifie. Donc cet homme avait un mandat tout particulier dans son ministère qui était de fortifier les gens qui étaient auprès de lui. On a parfois effectivement besoin des gens autour de nous pour mener à bien l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. Je peux vous assurer que je ne pourrais rien faire si j'étais tout seul. Je ne pourrais pas faire le ministère que je fais si je n'avais pas l'appui de mon épouse à mes côtés, mais aussi de l'ensemble des frères, des sœurs, des serviteurs qui sont à mes côtés afin de bien faire le travail. Lundi, j'étais dans une conférence à l'Université McGill, une conférence dans laquelle je vais raconter mon témoignage auprès de deux groupes d'étudiants, et ça se faisait en anglais. Et assurément, j'étais nerveux. J'étais nerveux, mais j'étais appuyé en même temps avec la prière de chacun d'entre vous. Alors, plusieurs m'avaient écrit. Certains étaient venus me voir dimanche en me parlant et en me donnant des paroles d'encouragement. Et c'est fort de tout cet encouragement, mais fort aussi de toutes ces prières que je pouvais me présenter devant ces étudiants. Fort aussi d'avoir Daphné à mes côtés qui, dans des moments où je pouvais oublier certains détails, était là pour murmurer à l'oreille, « Florent, parle de tel sujet, n'oublie pas telle chose. » Ou à un moment, même me dire le mot approprié en anglais pour une certaine expression ou autre. Donc, on a toujours besoin des gens autour de nous. La réponse de Barak s'est fait attendre, assurément. Et ce qui est triste, c'est que, se faisant attendre, ben, la victoire du peuple aussi attendait. La victoire du peuple a attendu Barak. Et parfois, parce qu'on retarde dans le temps notre implication, on ne comprend pas la portée de cette implication pour les gens qui sont autour de nous. Parfois, on ralentit le processus et par conséquent, on ralentit aussi la bénédiction que le peuple a besoin. Alors, mon frère, ma sœur, prends quelqu'un à tes côtés si tu veux, oui, mais ne retarde pas le processus de Dieu. Barak, ici, a fait attendre Déborah et a fait attendre le peuple d'Israël par rapport à la victoire. Donc, pendant un certain temps, ce peuple a encore été sous l'emprise de Jabin et de Sisera, alors que Dieu avait déjà décrété que leur temps était terminé. Parfois la crainte, parfois la peur, parfois l'appréhension, parfois la timidité, parfois notre pensée comme quoi on n'a pas tout ce que ça prend, même si on a étudié la leçon de Gédéon la semaine dernière, nous fait attendre, perdre du temps, et c'est simplement après coup, lorsque la victoire est gagnée, qu'on se dit « Hey, j'aurais dû y aller plus tôt, j'aurais dû faire la chose au moment où ça m'était demandé. » Regardez bien ce qui est posé comme question à Barak. On va lui dire « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël ?» va. Et le terme va, c'est le terme halak. H-A-L-A-K. Puis on va lui dire, et ça on lui disait dans le verset 6, on va lui dire au verset 14, lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? Et là, c'est le terme koum, qui veut dire lève-toi. Et on va même lui répéter dans Juges au chapitre 5, le verset 12, et ça c'est le chant de Déborah, où on va dire « Lève-toi, Barak, amène tes captifs, fils d'Abinoam. » Encore une fois, le terme « koum ». Deux termes importants dans la foi de Barak. « Lève-toi et va. » Ou « va et lève-toi. » « Va », le terme « halak » veut dire « quitter, procéder, traverser. » Veut dire aussi à l'occasion « mourir » et vivre. Le terme koum veut dire devenir fort, s'établir, fonder, faire lever quelqu'un d'autre ou faire lever les autres. Et ça, on va revenir dans ce terme-là tout à l'heure. Halak, va. Va, n'est-ce pas l'ordre que Dieu t'a donné? Comprenons que pour accomplir la volonté de Dieu, ça va nécessiter un déplacement. Ça va nécessiter de quitter l'endroit où on est tranquille, l'endroit où on est établi, pour aller jusqu'au champ de bataille. Il n'y a aucune victoire qui ne se gagne à distance. Il n'y a aucune victoire qui se gagne sans s'être levé, sans avoir fait des pas de foi. Et dans le cas de Barak, le pas de foi était de se présenter au mont Tabor, là où Dieu avait fixé rendez-vous. Nous avons parfois peur même de nous rendre là, ne sachant pas comment l'ennemi va se disposer contre nous. Mais Dieu lui dit, va. Déborah lui dit, va, parce que l'Éternel t'a donné cet ordre et l'Éternel te demande de te rendre jusque là-bas. Le Dieu d'Israël, ton Dieu, te dit d'avancer. Alors pour nous, on doit comprendre que oui, la victoire va imposer de se lever, de marcher, et va imposer de quitter l'endroit où on est pour se rendre au champ de bataille. Le deuxième terme, c'est koum, devenir fort, s'établir, se fonder. Lève-toi. La pensée dans lève-toi, c'était sois bien établi sur tes pieds. Vous savez que pendant un certain temps, j'ai fait de la boxe. Et en boxe, on nous apprend à placer les pieds d'une certaine façon pour être bien ancré sur le sol. Si on a les pieds trop larges, on ne sera pas capable de... trop écartés, on ne sera pas capable de se déplacer. Si on a les pieds trop rapprochés, on n'aura pas un bon équilibre. Donc, on nous dit de mettre un pied devant, un pied derrière, de garder les genoux un peu pliés, tout simplement pour avoir notre point de gravité le plus bas possible, pour que si on nous donne un coup, on ne puisse pas être chambranlant. Et c'est ici ce qu'on dit aussi à Barak. Dans le terme « koum », on va lui dire « lève-toi, tiens-toi fort, deviens fort, place-toi d'une façon où tu ne peux pas être ébranlé ». Et assurément, une des bonnes manières de ne pas être ébranlé, c'est d'être fondé dans la parole de Dieu, d'avoir les deux pieds ancrés dans les promesses de Dieu. Barak va être assuré de la victoire. Pourquoi? Parce qu'il se tient sur les paroles qui ont été prononcées et il va se tenir là où Dieu lui demande d'être. Pour connaître la volonté de Dieu, il a reçu une parole émanant du trône de grâce, émanant de la bouche de Dieu. Mais au lieu de calculer à savoir comment, combien, quand, pourquoi, ceci, cela, il est allé se tenir là où Dieu lui disait de se tenir, à Tabor. Ça me fait penser un peu au roi Josaphat. Il y a une armée qui se lève contre lui et Dieu lui dit « Va à telle montagne, tiens-toi là avec l'armée et regarde ce que je vais faire. » Et c'est lorsque le peuple se présente là où il doit être, avec l'attitude d'adoration, puisque Josaphat a placé ses chantres en tête. C'est à ce moment-là que Dieu envoie la zizanie dans le camp ennemi et que la victoire se dessine, se manifeste, se développe pour Josaphat. C'est un peu la même chose qui va se passer ici lorsque Barak va se présenter à Tabor. Et il se présente et il s'ancre là-bas. C'est l'image qui nous est aussi donnée, mais qu'on perd dans un détail concernant David, qu'on aura l'occasion de revoir dans quelques jours, où la Bible nous dit que lorsqu'il s'est présenté devant Goliath, il était armé, oui, de sa fronde, de son bâton, mais il était armé aussi de sa gibecière, son sac de berger. Et que contenait son sac? Ben, un sac de berger contient une serviette, contient un drap, contient des vivres. Alors, David était en train de dire, je vais me tenir là où je dois me tenir, tout aussi longtemps où je dois me tenir. Barak s'est tenu sur le mont Tabor tout aussi longtemps où il devait s'y tenir, jusqu'à ce qu'il voie Dieu qui déclenche le trouble dans le camp de Jabin, dans le camp de Sisera, et qu'il puisse effectivement prendre la victoire entre ses mains. Mais je disais aussi, Koum a le sens de faire lever les autres. Non seulement Barak devait aller jusqu'à Tabor, mais Barak devait aussi amener avec lui Nephtali, devait aussi amener avec lui Zabulon. Donc deux tribus, 10 000 hommes qui devaient l'accompagner. Si Dieu place quelqu'un en tant que leader et que cette personne n'assume pas son leadership et n'utilise pas la foi que Dieu lui donne et qu'il reste sous le poids de la crainte, sous le poids de la peur et de la terreur, ben l'ensemble du peuple va aussi être affecté par cette même terreur. Je disais dimanche dernier que chacun d'entre nous avons un cercle d'influence. Des gens qui nous regardent, ça peut être un fils, une fille, ça peut être un neveu, une nièce, ça peut être des collègues, des amis, ça peut être un père, une mère qui regarde leur fils ou leur fille. Peu importe, on a tous un cercle d'influence où des gens nous regardent. Et par rapport à ces gens que Dieu a placés autour de nous afin qu'on puisse les conduire, afin qu'on puisse, comme on l'a enseigné dimanche, faire d'eux des faiseurs de disciples, ben, ils regardent aussi les formateurs que Dieu leur donne. Ils copient les formateurs que Dieu leur donne. Et si le formateur exulte la peur, ben, le peuple va être aussi rempli de peur. Zabulon et Nephtali ont regardé Barak. Et quand ils ont vu que Barak était bien posé, bien établi, ils étaient eux-mêmes aussi fortifiés par la même foi qui s'emparait de Barak. Barak va être un instrument pour faire lever les autres. Et nous aussi comprenons que notre foi peut être, devrait être, doit être contagieuse. Alors je prie mon frère, je prie ma sœur, que tu puisses effectivement être un instrument déclencheur dans la foi de ton frère ou de ta sœur. Et c'est arrivé à quelques reprises, un des témoignages qu'on m'a rendu après ma propre expérience par rapport à la maladie. Plusieurs personnes sont venues me voir à travers les années, me dire « Pasteur », s'il m'appelle pasteur, ou Florent, s'il m'appelle par mon prénom, me dire, tu sais, au vu de la manière dont toi tu es passé à travers ta propre épreuve, maintenant que nous sommes face à une épreuve similaire, on te prend en exemple. Certains m'ont dit, mais parce que tu as dit telle phrase, ben j'ai dit aussi telle phrase. Et vous vous rappelez que moi, quand j'ai dit à Daphné le matin de du diagnostic ou le lendemain du diagnostic, lorsque j'ai dit à Daphné, viens, on va prier, sinon on va devenir dingue, c'était une phrase que j'avais prise d'un bien-aimé frère, collègue dans l'œuvre, qui était passé par un moment terrible. Et au moment où il était confronté à l'épreuve la plus importante de sa vie, la plus douloureuse de sa vie, il avait fait une simple prière en disant, Seigneur, tu vas devoir m'aider, sinon je vais devenir fou. Et moi, j'ai pris cet exemple-là et ça m'a servi à moi. Et j'espère que ça peut servir à d'autres encore. Alors, mon frère, ma sœur, peut-être que Dieu te place pour être comme un baraque. Et il attend que tu te lèves et que tu ailles, effectivement. Que tu ailles te placer là où tu dois te placer et que tu te cramponnes à cet endroit-là et que tu dises, Seigneur, j'ai mon sac, j'ai ma gibecière. La bataille peut durer 5 minutes, j'ai ce que ça prend. La bataille peut durer 2 semaines, j'ai ce que ça prend. La bataille peut durer 40 ans, j'ai ce que ça prend. Tu es là avec moi et je ne bougerai pas d'un centimètre. Il y a des gens qui te regardent, il y a des gens qui te suivent, il y a des gens qui sont inspirés par toi. J'ai eu le privilège d'avoir de bonnes inspirations dans ma vie. Des hommes, des femmes qui ont marché par la foi, qui ont enduré par la foi, qui ont subsisté par la foi. Et aujourd'hui, dans la place de leadership que Dieu m'a accordée en toute humilité, j'essaie moi aussi d'être mon petit exemple pour d'autres qui peuvent me suivre. Alors prions. Seigneur, Barak a eu peur, mais tu as placé à ses côtés Déborah. Barak a eu crainte, mais tu as permis qu'il ait à ses côtés Déborah, comme Pura a été à côté de Gédéon, comme Jonathan était un appui pour David, comme Timothée était un encouragement pour Paul. Alors je prie, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs, que tu pourvoies de tels servants et de tels serviteurs, de telles servantes et de tels serviteurs à leur côté, des hommes, des femmes qui savent encourager, qui savent fortifier la foi de ces bien-aimés. Je prie aussi, Seigneur, qu'étant bien accompagnés, on puisse se lever et aller. Aller là où tu nous fixes rendez-vous. Aller là où tu nous as appelés à livrer bataille. Aller là, même si les statistiques sont contre nous, même si les ennemis semblent nombreux, y aller tout simplement parce que tu nous as dit d'y aller et de s'y cramponner fermement, de s'y enraciner fermement, de s'y placer comme ce boxeur qui se plante en plein milieu du ring en disant à son adversaire, tu peux me frapper, je ne tomberai pas. Je ne te servirai pas de proie facile. Je ne m'écraserai pas facilement. Je suis campé sur les promesses de Dieu. Je suis campé sur la parole de Dieu. Et je continuerai à me tenir là tout aussi longtemps qu'il en est nécessaire. Alors je prie pour ma sœur, je prie pour mon frère. Que leur foi soit fortifiée par les personnes que tu places à leur côté, mais qu'ils comprennent aussi leur responsabilité, leur rôle aussi qui encourage, qui fortifie les gens à leur côté. Alors aujourd'hui, dans les combats de ma sœur, dans les batailles de mon frère, je prie pour une victoire, je prie pour de la ténacité, je prie pour de l'entêtement dans le bon sens du terme, je prie pour du courage. Je prie pour de la foi, je prie pour une force qui vient directement de toi et uniquement de toi. Et je prie pour la victoire que tu as déjà gagnée et que tu partages avec nous. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. On se retrouve demain matin pour notre prochain personnage qui devrait être Samson. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Bonne fin de journée à tous. Au revoir tout le monde.